It's Morning Edition from NPR News.
Let's eat in San Pinto House. Hey,
I'm Radio Rosalie Paris.
Pour vous, c'est la radio.
France Inter, le 18-20.
Nous sommes en Géorgie, alors que le deuxième tour d'élections municipales importantes se tient dimanche, alors surtout que l'ancien président Saakachvili est toujours en prison, toujours en grève de la faim, et qu'on se demande encore ce qu'il a réellement poussé à rentrer là maintenant de son exil ukrainien. On essaye d'éclaircir tout ça dans un instant avec notre premier invité. Le bruit du monde ce soir est en Grèce, sur l'île de Chios, qui voit construire un centre pour réfugiés afghans. N'en est pas très heureux, les Afghans non plus, vous l'entendrez, qui ont peur d'y rester des mois et des mois. Le bruit du monde, la suite, c'est sous les radars. Hélène Fromentier a trouvé une astronaute chinoise, des narcotrafiquants mexicains dans les jeux vidéo et un artiste albanais. 18h50, passons genre dans le monde et Julia Foyce avec notamment une campagne de pub en Espagne où ce sont les hommes qui dénoncent les violences faites aux femmes. 18h55, le monde d'après de Claude Guibal et la fin de l'état d'urgence en Égypte. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Tornike Gordadze.
Bonsoir.
Vous êtes senior fellow pour le Statecraft and Influence Network, je vais le dire en français derrière, à l'Institut international des études stratégiques. Vous êtes aussi ex-ministre géorgien, de l'intégration européenne, et c'est important. Laissez-moi remettre le tableau un peu en place, parce que le nom de Mikhaïl Saakachvili est sans doute familier aux oreilles de beaucoup de nos auditeurs, sans totalement les éclairer sur les moments d'actualité qu'il a animés. Saakachvili, c'est l'ancien président de Géorgie. Il a été de 2004 à 2013, après ce qu'on a appelé la révolution des roses. C'est le chef principal du parti d'opposition qui s'appelle le Mouvement National Uni. Il a quitté la Géorgie, il a été condamné en 2018 par contumace à 6 ans de prison pour abus de pouvoir, ce qu'il juge précisément abusif. Il était donc en Ukraine jusqu'à ces 3 dernières semaines et puis il est rentré en Géorgie où il s'est fait arrêter immédiatement. Il est en grève de la faim. Est-ce que vous savez, vous d'abord, est-ce que vous pouvez comprendre et deviner pourquoi, Monsieur Gordadze, pourquoi Saakachvili est rentré ?
On peut le deviner quand on connaît le personnage. En fait, c'est quelqu'un qui s'est tellement identifié à son pays. Il faut jamais oublier que Saakachvili, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2003, à la fin de l'année 2003, suite à la Révolution des Roses, c'était un pays qui était en plein marasme, en pleine corruption. La Géorgie était appelée l'État failli par les commentateurs. Donc lui, il s'identifie un peu à cette Géorgie modernisée, la Géorgie qui a combattu la corruption, qui est devenue un peu le modèle de la transformation démocratique dans la région, surtout comparé aux grands voisins russes ou à quelques autres voisins où il y avait des régimes autoritaires. Et lorsque en 2013, notamment, enfin oui, en 2013 et en 2012 plutôt, son parti a perdu les élections législatives, en 2013, il a abandonné le pouvoir pacifiquement. C'était pour la première fois qu'un président dans ce pays abandonnait volontairement et démocratiquement sa fonction.
Mais qu'est-ce qu'il a senti, Monsieur Gordadze, selon vous, qui a pu lui faire penser qu'il fallait rentrer maintenant ? Tout à l'heure, on est entre deux tours d'élections municipales qui sont très importantes, et on est dans un moment, ça fait un an que le pouvoir en Géorgie, effectivement, est très bancal, on va le dire comme ça. Qu'est-ce qu'il a cru qu'il était en train de se passer pour lui, peut-être ?
Alors lui, déjà, le connaissant un peu, il ne pouvait pas rester indéfiniment à l'étranger. C'est un homme qui est viscéralement attaché à son pays. Au bout de 9 ans d'exil, au début aux États-Unis, ensuite en Ukraine, où il avait une position officielle, il a décidé quand même de revenir en Géorgie. Il savait parfaitement qu'il risquait d'être arrêté. Beaucoup de gens l'ont dissuadé, y compris les parlementaires européens, quelques responsables européens, mais il est rentré pour galvaniser ses partisans et aller un petit peu au-delà, aussi des gens de l'opposition qui le regardaient de façon critique, qui pensaient qu'il allait jamais rentrer, qu'il allait jamais oser aller en prison. Avec ce geste un peu désespéré, il a réussi non seulement à faire gagner à son parti quelques pourcents de plus, mais aussi de faire comprendre au reste de l'opposition que l'avenir démocratique de la Géorgie était quand même, qu'on veuille ou pas, lié à cette personne et à sa libération. Dernière chose, Saakachvili a compris, et beaucoup de gens dans l'opposition pensent maintenant de cette façon, que malgré la progression de l'opposition à chaque élection, Il est extrêmement difficile de faire basculer le parti au pouvoir actuel qui a énormément de moyens pour influencer le vote. Et les dernières élections ont été extrêmement contestées, à la fois par l'opposition, mais aussi par les commentateurs internationaux, l'OSCE, qui parle des graves irrégularités, des pressions, de l'achat de vote, intimidation, etc.
Ce qui est intéressant quand même, c'est que depuis qu'il est rentré, il y a eu une manifestation d'ampleur pour qu'il puisse sortir de prison, mais on sent aussi jusqu'à quel point, et vous disiez que c'était un personnage un peu larger than life, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qui prend beaucoup de place, on va dire, on sent bien aussi que ça reste un personnage très clivant, y compris à l'intérieur de son propre pays.
Bien sûr, parce que comme je disais, c'est quelqu'un, quand il est arrivé au pouvoir, il était extrêmement populaire. Il faut rappeler que les premières élections, il a gagné plus de 90% de voix, parce que c'était aussi une élection post-révolutionnaire, quelques semaines après la révolution. Depuis 2004, sa popularité n'a fait que diminuer parce qu'il a fait adopter des mesures, des réformes extrêmement douloureuses, notamment pour démanteler cette bureaucratie corrompue en Géorgie. Il a entièrement changé la police du pays, qui a complètement démantelé en 24 heures et a créé une nouvelle police, la douane, etc. Et ces réformes ont été ressenties péniblement par une partie de la population. C'était une véritable guerre culturelle également dans ce pays. Beaucoup de gens pensaient qu'il était trop libéral, trop pro-occidental, qu'il luttait contre les traditions géorgiennes qu'on associe souvent à l'Église orthodoxe. Donc l'Église a été très très critique vis-à-vis de lui, a même joué un rôle important dans sa défaite. Donc effectivement, c'est un personnage clivant, c'est un modernisateur. On lui a aussi reproché d'avoir été trop autoritaire dans ses réformes, et c'est en partie justifié parce que le système judiciaire n'était pas totalement libre à son époque, et l'est encore moins aujourd'hui, parce que c'est la condamnation qu'il a subie est extrêmement contestable. L'actuel Premier ministre menaçait même de rajouter plusieurs années s'il ne se comportait pas bien en prison. Donc on voit bien l'absence ou le manque d'indépendance de la justice dans ce pays.
Tanguy Gordadze, vous dites modernisateur, en effet, mais est-ce qu'il est unificateur et surtout de là où il est aujourd'hui, Saakachvili, est-ce qu'il est réellement le nouvel, encore une fois, la deuxième saison de l'unification, si je puis le dire comme ça, de la Géorgie?
Oui, la situation est vous avez raison, la situation est différente de 2003-2004, parce qu'à l'époque, il arrivait encore totalement vierge. Il revenait des États-Unis où il avait fait des brillantes études, il avait entamé sa carrière d'avocat à New York, et il était rentré en Géorgie comme le sauveur qui, en quelques années, avait créé un parti politique qui s'était renforcé par sa lutte acharnée contre la corruption. Bon, maintenant, il est un peu, il a quand même un bilan de 9 ans de présidence qui ne fait pas l'unanimité. Comme je disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de laissés de compte de réformes qui ne veulent absolument pas qu'il revienne au pouvoir. Donc, il aura du mal à rassembler autant de monde qu'il a fait en 2004, mais au sein de l'opposition, c'est quand même la personnalité qui s'impose. Et le fait qu'il soit rentré, ça avait quand même pas mal secoué la base de l'actuel parti au pouvoir, qui, avant qu'il soit arrêté, vous avez dit dans votre introduction qu'il avait été immédiatement arrêté. En fait, il y a eu 2 ou 3 jours où il s'est baladé en Géorgie, où il postait des vidéos, des photos sur sa page Facebook, et ça avait provoqué quand même un vent de panique au sein du parti au pouvoir, où la base commençait un petit peu à douter et à se désolidariser un peu de la direction du parti. Bon, il a été arrêté juste à la veille des élections, ce qui a fait un peu renforcer le parti au pouvoir juste au moment des élections, mais c'est pour vous dire, il est quand même capable de déstabiliser, s'il est libre, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on ne peut pas le relâcher, de déstabiliser, y compris le parti au pouvoir.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'il s'est pris peut-être à son propre piège si rien ne bouge effectivement autour de lui?
C'est le risque. Il assume le risque parce que cette grève de la faim qu'il a entamée maintenant il y a plus de 3 semaines, c'est 25 jours, il sait très bien que ça peut très mal se terminer. Mais en même temps, ça pose un problème au gouvernement, parce que Saakachvili mort en prison, ça serait un énorme choc, y compris pour les gens qui ne l'aiment pas, et ça discréditerait encore plus le régime au pouvoir, qui lui refuse refusent le droit d'être transférés dans un hôpital privé parce qu'ils ont peur que ses partisans puissent prendre d'assaut l'hôpital et libérer. Donc ils sont extrêmement embêtés par son retour, qu'il soit en prison ou dehors. Dans les deux cas, le régime ne se sent pas rassuré. Et je pense aussi que la pression internationale ne va faire qu'augmenter plus il passe le temps en prison.
Alors, ne va faire qu'augmenter, Tornike Gordadze, le fait est que pour l'instant, quand même, le silence est assez assourdissant. Venant notamment de l'Union européenne, on n'entend rien concernant Saakachvili et la Géorgie.
Alors, il y a eu des réactions, les premières réactions sont venues du Parlement européen. Il y a eu plusieurs dizaines de parlementaires de l'Union européenne qui ont appelé à ce qu'ils soient libérés. Les gouvernements, les exécutifs sont plus prudents. Ils demandent à ce que les droits élémentaires et le procès équitable soient garantis. Sous-entendu que le système judiciaire, on fait pas trop confiance au système judiciaire géorgien. D'ailleurs, l'Union européenne avait négocié un accord entre l'opposition et le gouvernement au mois d'avril pour sortir de la crise politique. Et l'une des conditions de cet accord, c'était que le gouvernement fasse une réforme judiciaire véritable pour garantir l'indépendance de la justice. Or, il y a quelques semaines, le gouvernement a déchiré cet accord et est sorti unilatéralement de cet accord. Donc, oui, c'est pour l'instant, les réactions des exécutifs sont timides. Aussi parce que le régime actuel essaye de convaincre les gouvernements occidentaux en disant, écoutez, s'il revient au pouvoir, la Géorgie aura tout de suite un conflit avec la Russie. Et tout le monde se rappelle de la guerre 2008, alors que l'actuel régime, sa politique étrangère est une politique d'apaisement vis-à-vis de la Russie. Et finalement, ça arrange beaucoup de monde.
Alors, ce qu'il faut rappeler, effectivement, vous l'avez évoqué, c'est en 2008, je vais le faire très très court, mais Saakachvili voulait faire revenir dans le giron géorgien l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, ce qui avait provoqué des tensions, pour le dire à minima, avec la Russie.
Une invasion officielle de la Russie.
Exactement, c'est comme ça que ça s'était produit. Il y a eu du Conseil de sécurité, etc. Ça avait fait bouger, évidemment, jusqu'à un très haut niveau. Mais justement, vous parliez tout à l'heure d'Européens qui, pour l'instant, sont prudents. Est-ce qu'ils sont prudents ou est-ce qu'ils se disent que c'est vraiment pas le moment d'allumer un nouveau front avec Vladimir Poutine, dont on sait très bien qu'il n'est effectivement jamais très loin?
Oui, mais rien ne garantit que le changement de pouvoir en Géorgie provoque une guerre avec la Russie. Saakachvili a été au pouvoir 4 ans après 2008 et son comportement était extrêmement prudent pour éviter la guerre avec la Russie. Aujourd'hui, l'actuel gouvernement géorgien a une politique d'extrême prudence, je dirais même d'apaisement, même va souvent dans le sens de ce que demande de la Russie. L'influence de la Russie a beaucoup augmenté en Géorgie. La soft power russe est partout, alors que l'influence occidentale diminue. Donc, je pense que l'Union européenne et les Occidentaux, ils devraient réfléchir aussi jusqu'où ça peut aller. Et aussi, la transition démocratique dans n'importe quel pays est consolidée lorsque le régime peut changer de façon régulière à travers les élections. Or, aujourd'hui, on voit que les élections sont extrêmement biaisées dans ce pays. Là, l'opposition gagne le premier tour dans la plupart des grandes villes du pays et le gouvernement refuse, disant qu'il est absolument impensable qu'on laisse les conseils municipaux à l'opposition. Aujourd'hui, tous les conseils municipaux de toutes les villes et tous les villages sont contrôlés par une seule force, ce qui est vraiment pas le signe d'un pays démocratique. Donc laisser 4 ou 5 grandes villes du pays à l'opposition, même cela, le régime actuel considère que c'est pas possible, c'est pas imaginable.
Donc ils
le disent directement.
Et est-ce que vous diriez donc, Tornike Gordadze, qu'on est vraiment dans une dérive, on va appeler ça une dérive autocratique, une dérive même? Est-ce qu'on appelle ça un début de dictature? Comment on appelle ça, ce qui se passe là? Alors, depuis cette année, depuis les dernières législatives, en gros, qui ont amené cette crise politique dans laquelle on est?
Je pense que depuis, au moins depuis 2 ans, il y a des tendances autoritaires. Les élections, encore une fois, ne sont pas démocratiques, libres et démocratiques en Géorgie. Et ensuite, il n'y a aucune indépendance de la justice. Il y a la corruption qui revient. C'est un régime oligarchique à tendance autoritaire, je dirais, c'est pas une dictature comme au Turkménistan ou en Biélorussie. Pas encore, évidemment. On n'est pas dans cette catégorie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Union européenne essaye de, a toujours les plus mauvais exemples à côté de critique la Géorgie, mais de façon modérée. Oui, la Géorgie est en train de glisser, et en train de mal évoluer. Là-dessus, tout le monde est d'accord, y compris l'Union européenne, mais on espère toujours que ça s'arrêtera et que ça n'ira pas plus loin.
Quel est le prochain épisode selon vous, monsieur Gordadze? Il va y avoir donc le deuxième tour des élections municipales dimanche qui pourront appuyer ou pas ce qui s'est passé au premier tour, c'est-à-dire une percée de l'opposition, mais après, du coup, et surtout, quand on voit ce qui s'est passé après les législatives déjà très controversées, quelles craintes on peut avoir pour les mois qui viennent?
Je pense qu'il est à craindre qu'effectivement le succès de l'opposition ne soit pas accepté par le régime, qui a peur que même si... Il s'agit de façon, dans une démocratie, il est normal que le 100% du pouvoir ne soit pas contrôlé par une seule force. Ils ont très peur que les conseils municipaux de l'opposition créent tout de suite les enquêtes sur la corruption. Et ça, c'est absolument inacceptable pour le régime actuel, parce qu'ils ont géré pendant 9 ans tout en Géorgie, y compris les budgets des villes, des budgets municipaux. Et une enquête indépendante, ça va les discréditer. Donc, ils livrent une bataille très forte et très acharnée. Ils sont en train de dépenser énormément de l'argent. Il faut quand même rappeler qu'en Géorgie, aux élections municipales, 75% des dépenses de tous les partis politiques réunis, donc vous avez une quinzaine de partis politiques qui participaient à ces élections, et 75% de toutes les dépenses étaient dépensées par un seul parti, le parti au pouvoir. 25% par les 14 autres. Donc vous voyez le déséquilibre quand même qui est immense, et ce parti ne veut absolument pas laisser l'opposition gagner, je ne sais pas. Et à ce moment-là, le rôle de l'Union européenne et des Occidentaux sera fondamental, qu'ils expliquent au régime actuel qu'il faut qu'il accepte au moins une défaite partielle, parce que autrement, oui, on risque, on voit ce qui se passe à chaque fois que les élections sont contestées, comme le régime se durcit. On voit le cas de la Biélorussie. Lukashenko a été contesté, et son régime s'est raidi et est devenu une dictature encore plus forte qu'auparavant, est devenu carrément ensuite l'étape suivante, ça pourrait être l'alliance avec la Russie, parce qu'on sait très bien que les régimes autoritaires dans cette partie du monde sont soutenus par la Russie. Ce n'est pas l'Union européenne, les États-Unis qui soutiennent les régimes autoritaires.
Vous avez pu lui parler, vous, puisque vous avez été proche, Tornike Gordadze, vous avez pu lui parler, ou au moins, même avec très peu d'intermédiaires, savoir comment il se portait, lui, et ce qu'il attendait, surtout là, maintenant, dans l'état où il est, Saakashvili?
Non, je n'ai pas pu lui parler récemment, mais j'ai parlé à des gens qui le voient en prison. Ils le décrivent comme étant combatif, comme étant extrêmement déterminé aussi d'aller jusqu'au bout. Il avait déclaré à plusieurs personnes qu'il était prêt à mourir, quitte à... En fait, il cherche aussi, d'une certaine façon, à rallier la sympathie de ceux qu'il a déçus, quelque part, à un moment donné, et aussi des gens qui le critiquaient de par son côté un peu autoritaire, son côté un peu personnel. Parce que cet homme, il a aussi un certain caractère, il a fâché beaucoup de ses anciens amis. Et en se comportant de cette façon, moi, je vois des gens qui le critiquaient très, très fortement, qui le haïssait même à un moment donné, avoir beaucoup d'indulgence maintenant vis-à-vis de lui, et je pense qu'il a entamé sa deuxième vie politique. Je ne sais pas où ça va le mener, si ça va le mener à la libération et ensuite à un grand comeback, ou on ne peut pas exclure aujourd'hui, dans sa situation actuelle, le pire non plus.
Donc. Eh bien, c'est une situation qu'on suivra et qu'on suivra ensemble, pourquoi pas, à Tornike Gordadze. Merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup.
Le 18-20. Fabienne Saintès sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde. C'est en Grèce, à Chios, qui construit un centre pour accueillir des réfugiés afghans, ce qui inquiète la population et inquiète aussi les Afghans qui ont peur d'y passer un temps infini. Le bruit du monde, la suite, sous les radars. Hélène Fromanti.
Nous serons entre autres, Fabienne, en Albanie, où un artiste parcourt les bistrots pour peindre les clients avec du café, de l'expressionnisme qui, paraît-il, fait du bien au moral.
Allez, passons genre dans le monde. Julia Foyce, bonsoir à vous, Julia.
Bonsoir. Une campagne en Écosse inédite à bien des égards, campagne sur les violences faites aux femmes.
Le monde d'après, Claude Guibal. Bonsoir Claude.
Bonsoir Fabienne. Et ce soir, direction l'Égypte et cette décision assez inattendue du président Abdel Fattah el-Sissi, la fin de l'état d'urgence qui était en vigueur depuis 4 ans.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue. Il passe par l'Australie. Les Teskey Brothers, So Cut Up, c'est sur France Inter. I'm so caught up.
Even if I tried to think of something new, I can't throw it off you. I'm not feeling on my mind, feeling on the edge. There's only one thing I can be certain, it's true. I'm still going on you.
Ce soir est en Grèce, dans l'île de Chios, nous sommes au nord-est du pays. C'est ici que sont arrivés les premiers Afghans, il y a 20 ans, ou à peine un peu moins, dans les années 2004-2005. Ils fuyaient les combats et sont arrivés depuis la Turquie toute proche. En 2015-16, le camp de réfugiés de Chios, qui est une ancienne usine d'aluminium, a recueilli plus de 5000 réfugiés. Aujourd'hui, il n'en compte que 400. Mais un nouveau camp de 1800 personnes est en construction. À Chios, on ne cache pas que l'on craint une nouvelle vague d'arrivées afghanes. Et le reste, c'est François-Xavier Frelan qui raconte.
Dans le port de Chios, trois navires de guerre des gardes-côtes grecs font des allers-retours incessants au large pour surveiller d'éventuelles arrivées de réfugiés. Nous sommes à 6 km seulement des côtes turques. Devant la porte principale du camp de réfugiés de Vial, à la sortie de la ville, un imposant dispositif policier contrôle les allées et venues des réfugiés en semi-liberté. À l'extérieur, des containers en tôle, à côté des matelas qui sèchent après la pluie, Manaïka, veuve, deux enfants, originaire du Panchir, le fief de Massoud, tombé aux mains des talibans, a perdu espoir de rentrer au pays.
Les hommes de Massoud sont de notre côté. Ce sont nos compatriotes. Ils se sont battus contre les talibans. Regardez, les talibans tuent les gens. Ils violent les femmes dans notre pays. Ils ne leur reconnaissent aucun droit. Comme nous, les forces de Massoud ne veulent pas d'envahisseurs étrangers. Ils veulent chasser les talibans. Nous voulons que les combattants talibans retournent là d'où ils viennent.
À Chios, une île de 52 000 habitants, la construction ce mois-ci d'un nouveau camp plus moderne et propre, d'une capacité de 1 800 personnes, inquiète. Les réfugiés craignent d'en être prisonniers pour longtemps. La population locale, elle, y voit la preuve qu'on se prépare à une nouvelle vague de migrants, entre autres afghans. Daphné Georgiopoulos, journaliste au grand quotidien local Politis.
Les habitants de Chios ne veulent pas que leur île devienne des îles dortoirs, si je peux dire ça. Et pour Chios, c'est l'Union européenne qui va nous donner l'argent, 48 millions d'euros, pour faire un camp de réfugiés. Et ils ont peur que ce passage, ça sera un passage de vie.
En effet, de gauche ou de droite, on déplore ici l'institutionnalisation de l'île en tant qu'aire de réfugiés. Dans l'histoire, l'île de Chios, longtemps très pieuse et chrétienne, a été marquée par l'occupation ottomane musulmane de 4 siècles, soldée en 1822 par le massacre de 30 000 habitants et rendue célèbre par le fameux tableau d'Eugène de la Croix. Quasiment chaque semaine, les habitants manifestent sur la place centrale de Chios contre les camps. Baisse du tourisme, problème de délinquance, peur de l'islam aussi. Kostas Triantafilos, député de centre-gauche, ancien du PASOK, le parti socialiste grec.
La région de Chios représente 0,0001% de toute la surface de l'Europe. Les îles de Chios, Lesbos, Samos ne peuvent pas assumer tous les problèmes de l'Europe au sein de leurs frontières. Nous sommes une toute petite île dans une région très sensible, car nous avons des problèmes avec nos voisins de l'autre rive.
Mais pour l'écrivain Yanis Makrianis, publié en France, qui habite à 10 km seulement du futur camp et dont il déplore déjà l'aspect carcéral, les habitants de Chios ont la mémoire courte.
En 1941-42, les Grecs sont partis se réfugier en Syrie, à Chypre et au Moyen-Orient, à cause de la guerre et de l'occupation allemande. Aujourd'hui, de Syrie ou d'Afghanistan, ces gens se sont aussi réfugiés chez nous, à cause de la guerre et de la situation politique là-bas.
Quelques semaines après l'arrivée au pouvoir des talibans et 20 ans tout juste après l'intervention occidentale en Afghanistan, à Chios, on ne retient qu'une chose. L'activité touristique a baissé de 70% dans les 10 dernières années. Les migrants, quant à eux, errent sur les ferries, d'île en île jusqu'à Athènes, puis reviennent souvent, renvoyés du continent, au camp de Chios. Alors, sur cette magnifique île de paysages, d'histoire et de culture, si Homère est peut-être né à Chios, l'auteur de l'Odyssée, fierté des habitants, les migrants semblent vivre le même destin qu'Ulysse, le héros du livre, fuyant les ennemis de toutes parts, prisonnier des mers, sans espoir de retour à la maison.
Merci, grand merci à François-Xavier Froland pour le reportage. La traduction de l'Afghan a été assurée par Aurangzeb Mousteï, qu'on remercie aussi. À très très vite, le bruit du monde, la suite passe sous les radars et c'est Hélène Fromanti. Et nous sommes en Chine d'abord pour parler d'une astronaute, une femme qui vient de s'envoler pour l'espace, mais qui attire sur Terre une vague de sexisme.
Et oui, le colonel Wang Yaping, 41 ans, a décollé il y a 10 jours de Pékin, direction la nouvelle station spatiale chinoise. Avec deux autres astronautes, deux hommes, elle va passer 6 mois en orbite, devenant ainsi la première femme chinoise à séjourner dans cette station. Alors vous entendez là Wang Yaping en conférence de presse juste avant le départ. Avoir l'honneur de participer à la construction de la station spatiale pour la mère patrie me rend fière, dit-elle. Je suis fière d'appartenir à cette grande époque. L'astronaute n'est pas une novice, c'est la deuxième fois qu'elle va séjourner dans l'espace. Pour autant, en amont de sa mission, Wang Yaping a dû faire face, dans les médias notamment, à un flot de remarques condescendantes et sexistes, symptomatiques du modèle patriarcal chinois. Certains ont comparé ses aptitudes physiques à celles de ses confrères masculins. D'autres ont évoqué sa fille de 5 ans comme un bon élément de CV. L'administration spatiale chinoise s'est même vantée d'avoir fait envoyer des serviettes hygiéniques et produits de beauté à bord de la station spatiale, car oui, les astronautes femmes se sentent mieux quand elles mettent du maquillage. Rappelons qu'en Chine, la discrimination envers les femmes reste très marquante au travail. Il n'est pas rare d'être recruté sur son physique ou évincé lorsqu'on attend un enfant. Autant dire que le pays est encore bien loin de l'ère MeToo. Un mouvement naissant a d'ailleurs été étouffé à la fois par la justice et par la censure sur les réseaux sociaux.
Et ça n'est pas Julia Foy qui vient de s'installer qui vous contredira. Direction maintenant le Mexique où les narcotrafiquants infiltrent les jeux vidéo pour recruter des jeunes.
Oui, on savait déjà que les cartels de drogue mexicains avaient les jeunes dans leur viseur. Selon le réseau pour les droits de l'enfance au Mexique, le RIDIM, des milliers d'enfants sont recrutés chaque année. Mais ce qui inquiète les autorités ces temps-ci, c'est le canal de recrutement utilisé. Alors ça se passe via ce type de jeu vidéo, Free Fire, un jeu de smartphone à succès dont on entend la bande annonce. Vous incarnez un personnage dans une île éloignée et vous devez virtuellement tuer les autres participants jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Début octobre, trois jeunes mexicains, des mineurs originaires de l'état de l'Oaxaca au sud du pays, se sont fait embrigader par des narcotrafiquants via l'espace de discussion de ce jeu. Ils ont été contactés par un groupe criminel qui leur a proposé un travail de guetteur. Autrement dit, aller se positionner dans des et avertir les trafiquants lors du passage de la police, le tout pour environ 350 euros tous les 15 jours. Les jeunes étaient prêts à embaucher, mais les autorités les ont arrêtés in extremis. Il n'en fallait pas plus pour secouer le gouvernement. La semaine dernière, le président mexicain lui-même a tenu une conférence de presse pour mettre en garde les parents et les inciter à faire attention à leur progéniture. Pour autant, le chef de l'État ne veut pas interdire les divertissements aux enfants. Et il serait d'ailleurs compliqué de limiter l'accès à ces jeux, souvent gratuits, à télécharger. téléchargés.
Et puis Hélène, on s'arrête enfin en Albanie avec cet artiste qui adoucit les mœurs en peignant des kidam dans les bars.
Ah oui, cela fait maintenant plusieurs mois que David Kriemadi se balade de bar en bar pour peindre les clients qu'il rencontre. Et sa technique à lui, eh bien ce n'est pas la gouache, ni l'aquarelle ou encore l'huile sur toile. Non, Fabienne, il peint avec du café à chaque fois. C'est le même rituel. L'artiste pousse la porte d'un bistrot avec son bloc de papier et ses pinceaux. Il va parler aux gens attablés, puis leur propose de leur tirer le portrait gratuitement. Reste donc à commander un expresso et à se mettre au travail. Donc dans cette interview à l'agence France Presse, David Kriemadi explique que cette forme d'art est une thérapie, un moment de calme et de réflexion qui aide les gens à surmonter les situations difficiles comme la pandémie liée au coronavirus ou ce séisme qui avait fait une cinquantaine de morts en Albanie il y a 2 ans. Un instant un peu hors du temps dans un pays où les cafés sont des lieux incontournables de la vie sociale, un endroit pour s'exprimer librement, pour se rencontrer en famille avant un mariage ou après un deuil. L'Albanie est d'ailleurs l'un des pays du monde qui compte le plus de bars et de cafés, 600 pour 100 000 habitants. À votre santé.
Eh bien, comme vous dites, ouais, Hélène Formanti, merci beaucoup. On se retrouve demain et allez-y mollo, easy on me.
Toujours avec modération.
Voilà, c'est Adèle qu'on est vraiment content de retrouver dans la playlist de France Inter.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when
pour, on adore dans le 18-20. Easy on me, Adèle sur France Inter. Et Easy, s'il vous plaît, avec Julia Foyce, mesdames, messieurs, et autres gens, la voici.
France Inter. Un jour dans le monde.
Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence par l'objet de la semaine.
De ces objets qui, à eux seuls, racontent un air du temps. C'est une sorte de petit bol, assez joli, hein, qui porte un petit nom tout mignon, Kozo, et qui, à lui seul, pourrait créer une mini-révolution, puisqu'en fait, c'est un contraceptif masculin. Mis au point par Rebecca Weiss, designeuse allemande, il vient de recevoir un prix au Dyson Awards, cérémonie qui récompense les innovations destinées à améliorer notre quotidien. Celui de Rebecca Weiss s'annonçait un peu compliqué quand sa gynécologue lui annonce qu'à cause d'un problème de santé, elle ne pourra plus jamais prendre la pilule. La jeune femme se met alors à chercher ce qui pourrait exister comme équivalent pour son partenaire et là, rien. ou si peu, par manque d'informations, manque de technologie à disposition, lacunes ou flemme de la recherche, et peut-être aussi un peu à cause de cette peur diffuse mais profonde chez nos camarades de jeu, peur de voir leurs parties intimes désintégrées et totalement inutiles à la postérité, les hommes sous contraceptifs sont encore très peu nombreux, d'autant plus que l'une des rares possibilités existantes, la vasectomie, rebute pour son caractère quasi irréversible. Mais là, non, pas avec Kozo. Kozo, c'est 15 jours pendant lesquels tout risque de grossesse est écarté. Comment ? En trempant ses testicules dans un bain d'eau tiède contenu dans ce bol, donc qui se met alors à diffuser des ultrasons. Ultrasons qui, eux, s'attaquent aux spermatozoïdes, les neutralisant, mais non promis, ça leur fait pas mal. Et ça marche si on s'en tient aux tests effectués jusqu'ici sur d'autres espèces animales que la nôtre. Sur l'homme, le Kozo n'a pas encore été évalué. Faute de volontaire, peut-être ? Mais non, allez.
Vous savez pas si bien dire, vous savez que notre sujet de téléphone sonne de
alors
jeudi prochain.
Alors vous me montrez pas du doigt.
C'est de jeudi prochain, c'est la contraception masculine.
Ah bah voilà.
Donc voilà, vous pourrez appeler au 01 45 24 7000. Le Kenya, en attendant, rend hommage à Agnès Tirop. Ou Tirop.
Agnès Tirop a eu 26 ans samedi, au lieu de quoi cette cérémonie funèbre longue de 5 heures, retransmise à la télévision kényane, cérémonie à laquelle on a vu se presser nombre de personnalités publiques, des politiques comme des sportifs, chacun rivalisant d'émotions et de grandes déclarations pour célébrer l'athlète retrouvée morte, poignardée quelques jours plus tôt dans sa chambre au centre d'entraînement d'Iten, là où on a aussi retrouvé une lettre, des aveux de son entraîneur et mari, désormais principal suspect de l'affaire, actuellement placé en détention provisoire. On est bien sur un féminicide, donc pourtant même là, pas un mot sur les violences conjugales pendant cette cérémonie. Pas une fois le concept de violences faites aux femmes n'est formulé. Le chef de l'État, Uhuru Kenyatta, s'est contenté d'accuser des gens, je cite, aux comportements égoïstes et lâches. Le président de la Fédération d'athlétisme a, lui, pointé la nécessaire prise en charge de la santé mentale des athlètes, comme si elle était folle ou comme si sa mort était la conséquence tragique d'un acte isolé, pas le produit d'un système. Sauf que cette fois, ça ne passe pas. Le peuple kényan, femmes en tête, demande maintenant justice et réparation.
Allez, on termine avec la campagne de la semaine.
Campagne virale en ce moment sur les réseaux sociaux écossais. Des hommes de tous âges, de tout type défilent devant les caméras et posent ces questions-là.
Avez-vous déjà fait un compliment à une fille dans le genre « tu es jolie » et vous êtes-vous demandé pourquoi elle ne vous disait pas merci ? Vous êtes-vous déjà introduit dans sa messagerie perso pour écrire des horreurs sans lui dire après ? Lui avez-vous déjà offert un dîner en pensant qu'elle vous devait quelque chose ? Lui avez-vous déjà offert 3 shots d'alcool en pensant qu'elle vous devait un bon coup ? Et puis, l'avez-vous déjà tiré d'un taxi avec ses copines pour la mettre dans votre taxi ? L'avez-vous culpabilisé ? Avez-vous fait pression sur elle pour l'obliger à monter dans ce taxi en vous sentant comme un jeune crétin ? La plupart des hommes ne se regardent jamais dans une glace pour voir qu'il y a un problème. Mais on devrait vraiment se regarder en face. La violence sexuelle commence bien avant qu'on le croit. Ne soyez pas ce type-là.
Alors pourquoi elle est dingue cette campagne ? Pourquoi on se dit que le curseur enfin se déplace et que le regard change ? Eh bien parce que pour la première fois, ce sont des hommes qu'on filme et qu'on interroge, dont on questionne le comportement, pas des femmes qui sortent seules le soir et qui pressent le pas dans des ruelles noires. C'est l'origine de la violence qui est filmée, pas sa cible, ce sont les prédateurs que l'on regarde en face, pas les proies. Si je vous dis qu'en plus, cette fois-ci, ce ne sont pas non plus les associations qui sont à l'origine de la campagne, mais bien la police. Pour le coup, c'est une vraie première fois.
Eh ben formidable. Non mais je croyais qu'il y avait quelque chose derrière, je sais pas pourquoi. Donc Julia, merci, j'ai envie de dire.
Allez, je vous aime Fabienne. À la semaine prochaine.
Allez, le monde d'après, c'est maintenant.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Le monde d'après de Claude Guibal en Égypte ce soir. Claude, vous voulez revenir sur cette décision surprise du président Abdel Fattah el-Sissi qui, hier soir, a annoncé la fin de l'état d'urgence dans le pays.
Et il y a de quoi se réjouir, hein, Fabienne, parce que l'état d'urgence, difficile d'imaginer ce que c'est quand on ne vit pas avec au quotidien. Théoriquement, c'est un état d'exception, comme son nom l'indique, qui permet à un pays de s'affranchir du cadre de ses lois pour justifier des moyens sécuritaires exceptionnels à cause d'une situation elle-même exceptionnelle. Mais il faut savoir qu'en Égypte, eh bien, la loi d'urgence, on n'a connu que ça, ou presque, depuis 1981. 40 ans, avec à peine quelques mois d'interruption après la révolution de 2011. Arrivé au pouvoir en 2014, Abdel Fattah al-Sissi l'a d'abord réinstauré dans la péninsule du Sinaï pour contrer l'insurrection djihadiste avant de l'étendre en 2017 à l'ensemble du pays à la suite d'une série d'attentats contre des églises coptes et depuis tous les 3 mois, cet état d'urgence est reconduit de façon automatique.
Mais pas ce coup-ci.
Et oui, à la surprise générale hier soir, sur sa page Facebook, Abdel Fattah al-Sissi a annoncé qu'il ne le reconduirait pas, l'Égypte étant devenue, selon lui, une
oasis de sécurité et de stabilité dans la région, fermez les guillemets. Cet état d'urgence cristallisait, Fabienne, toute la politique autoritaire mise en place par l'État égyptien. Au nom de la lutte antiterroriste, l'état d'urgence lui donnait absolument toute latitude pour réprimer les manifestations, arrêter, maintenir en détention de façon indéfinie les opposants, sans charge officiellement établie, des opposants parfois détenus au secret. Ça permettait de surveiller les communications, de censurer les médias, de saisir des biens, tout cela bien sûr sans réelle supervision judiciaire.
Donc cette décision est une évolution positive.
Oui, et difficile de ne pas s'en réjouir. Et on se demande pourquoi, pourquoi cette annonce subite. Et on en vient à se demander si ça ne serait pas en rapport avec les pressions exercées par l'allié américain. Il faut se rappeler, Fabienne, que l'Égypte, eh bien, c'est le deuxième bénéficiaire au monde de l'aide américaine derrière Israël, 1,3 milliard de dollars, dont une partie en aide militaire. Or, il y a deux mois, les États-Unis annonçaient justement, eh bien, qu'ils allaient geler une partie de cette aide militaire à l'Égypte en la conditionnant à des améliorations en matière de respect des droits humains. Alors certes, les États-Unis ont grand besoin de cet allié égyptien. Abdel Fattah al-Sissi coopère activement en matière de contre-terrorisme. Il joue aussi un rôle précieux de médiation entre Israéliens et Palestiniens. Il a même rencontré le Premier ministre israélien Naftali Bennett. C'est la première rencontre entre un dirigeant israélien et un dirigeant égyptien en 10 ans. Un geste très apprécié à Washington. Mais voilà, Joe Biden doit aussi tenir compte des élus de son camp, les démocrates, qui continuent à le rappeler à ses promesses d'engagement démocratique et plusieurs d'entre eux exiger des preuves de l'amélioration des droits de l'homme en Égypte pour débloquer cette aide.
Et donc là, c'est une belle preuve.
Oui, c'en est une. Et les organisations des droits de l'homme ont salué, évidemment, ce geste attendu depuis si longtemps. Alors, saluer, oui, mais non sans une certaine réserve, non sans prudence, voire pour certains, peu d'illusions. Car la levée de cet état d'urgence n'aura pas d'incidence directe sur les milliers d'Égyptiens qui sont détenus ou qui ont disparu après avoir été arrêtés dans ce cadre. Elle ne provoquera pas la libération des dizaines de militants des droits de l'homme emprisonnés pour avoir simplement participé à des manifestations, par exemple. La levée de l'état d'urgence va laisser la place à l'arsenal législatif très répressif dont l'Égypte s'est dotée ces dernières années, des lois, cette fois-ci votées par un parlement très largement acquis au pouvoir et qui vont donc, elles, rester. Des lois qui permettent de contrôler les médias, de contrôler la parole, par exemple, de ceux qui porteraient préjudice à l'image de l'Égypte ou mettraient en danger sa stabilité. Les Égyptiens sont tellement habitués depuis des décennies à vivre dans un système répressif qu'ils ont eux-mêmes intégré les codes de l'état d'urgence. Et c'est pourquoi cette annonce, pourtant très positive, ne suscite qu'un enthousiasme contrôlé.
Le monde d'après de Claude Guibal ce soir. Merci beaucoup Claude. À demain bien sûr. Dans un instant, le 18-20, la suite, c'est le journal d'Hélène Philly et puis le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous. Ne changez rien et à tout de suite.